Merci, Monsieur le Président. Oui, à mon tour, il faudrait féliciter les élus, les représentants de la société civile, les forces vives et les fonctionnaires qui ont, très nombreux, travaillé à l'élaboration de ce projet. Alors, cette démarche et ce projet ont beaucoup de mérites. Et ils ont aussi quelques limites que nous saurons, j'en suis sûr, dépasser à l'avenir. Le mérite, je dirais le premier, c'est quand même d'avoir posé tous les enjeux communs à toutes les communes de l'agglomération. Quand nous sommes venus au sein de la CA2M, Comité d'agglomération de Metz Métropole, nous sommes venus avec nos problèmes, j'allais dire nos problèmes chacun dans nos communes, dont certains se recoupaient et apportaient des solutions communes. Mais on n'était pas encore au stade où nous posions les problèmes communs. Et si notre territoire, eh bien, notre territoire qui est parfaitement défini, nous n'avons pas compétence, autorité, légitimité pour décider au-delà de notre territoire, bien sûr que notre territoire porte des enjeux qui le dépassent largement. Le deuxième mérite, c'est non seulement de poser les problèmes, mais c'est de travailler aux solutions. C'est d'esquisser des pistes pour l'avenir. Et on reconnaît dans les trois chapitres qui ont été définis sur les enjeux d'avenir, les transports, l'écologie urbaine et urbaine, et Arontech. Ces enjeux qui posent d'abord... qui sont d'abord ceux de l'attractivité, doivent bien être compris à l'égard des autres territoires. Notre métropole est trop souvent perçue par le département, par des territoires voisins, comme une pompe aspirante à leur détriment, qui aspirerait ce qui existe sur les territoires périphériques pour les rapporter sur le centre que nous représentons. Alors que si c'est une pompe aspirante, c'est tout le contraire. C'est une pompe aspirante qui aspire pas en bas, mais en haut. C'est ça l'attractivité. Prendre les projets internationalement mobiles. Obtenir, on en a parlé, un développement de notre université. Obtenir de l'État ou de l'Union européenne sur les grandes infrastructures, dire les investissements nécessaires. Et donc c'est aspirer d'en haut pour rediffuser en bas, pas seulement sur notre territoire métropolitain, mais bien également sur le territoire périphérique. Alors, les limites, j'en verrai deux, qui ont dépassé. La première limite, c'est que quand même, entre nous, nous arrivons en fin de mandat, tous. Bon, et que définir des grandes orientations pour plusieurs années quand on arrive en fin de mandat, on pourrait s'interroger sur la légitimité de ce projet, en disant, tiens, dans un an et demi, ça peut être totalement mis en cause. Mais j'irai, je crois pas. Je ne crois pas parce que d'abord, ce n'est pas un projet municipal un an avant. D'ailleurs, le projet métropolitain ne peut pas être un projet municipal, même le projet de la plus grande ville de la métropole. Parce qu'un projet métropolitain est forcément celui de la métropole et donc une synthèse eh bien, des volontés de l'ensemble des communes. Et une synthèse dynamique, pas un petit dénominateur commun. Et une synthèse qui, justement, avec cette méthode, est capable de transcender dire ce que sont les préoccupations, les problèmes légitimes, mais strictement municipaux. Les transcender sur l'intérêt commun, donc l'exercice est utile et va se poursuivre, et je n'imagine pas que ces grands axes puissent être mis en cause. La deuxième limite, mais c'est assez classique dans ce genre d'exercice, parfois avec un langage un peu techno, mais vous savez, j'ai 20 ans de pratique à la région, au département, où on est toujours dans le même exercice, qui ne parle pas toujours, je veux dire, aux citoyens de base, mais qui peut parler aux décideurs, bien, quand on prend la sémantique du document, c'est que notre projet, à ce stade, il esquisse des pistes d'avenir. Il est parfois assez conceptuel, pourrait lui faire le reproche de manquer de concret, parfois de puissance, c'est-à-dire de rester sur des intentions et sur le concret et la puissance. Effectivement, sur les transports, par exemple, je ne vais pas refaire le débat, on l'a eu, vos collègues l'ont fait, mais effectivement, on a ce problème crucial de cette A31 complètement saturée. On n'a encore rien vu, dit avec les investissements qui se font à Bétambourg point sur lequel le rail est absolument incapable de prendre la suite. Alors la 32 a été sacrifiée. Je crois que j'ai j'ai un ennemi et vous, monsieur le maire de Metz, vous avez des amis qui, à l'époque, se sont entendus pour faire capoter le projet d'A32. On le paye encore. Bon, alors maintenant, il y a l'A31 bis, qu'on ne doit pas louper. Mais en même temps, je viens de dire, il n'y a pas de représentant d'État ici, mais je dis, ça peut leur être dit, il ne faut pas qu'ils placent les communes intercommunalités du Nord-Mosellan dans la situation, dans cette forme de chantage. On leur dit, vous acceptez le projet imposé par la technostructure, par l'administration de l'État, ou alors ce sera rien du tout. Je crois que même aujourd'hui même, toutes les intercos du Nord-Mosellan se sont entendues sur un tracé qui à la fois permet de faire de la 32, un outil de redéveloppement de ce bassin, permet aussi de ne pas complètement couper en deux Florange, qui est une ville déjà largement malmenée et qui sera à ce moment-là totalement sinistrée. Je crois qu'il faut que nous en soyons solidaires. Mais on a cette question de l'A31 bis qu'on ne doit pas louer. On l'a évoqué, eh bien, les liaisons ferroviaires nord-sud, le fret, le canal, la liaison fluviale Rhin-Rhône, dont je regrette et dis devant les députés que le gouvernement l'ait abandonné pour l'instant, même si on sait très bien qu'il n'est pas immédiatement faisable et les liaisons financières sont considérables. Il ne faut pas que notre gouvernement renonce à le porter au niveau européen. Parce que c'est d'abord un projet européen, c'est la seule liaison nord-sud possible, quoi, la seule liaison à grand gabarit entre la mer du Nord et la mer Méditerranée. C'est pas rien quand toute l'Europe veut se montrer exemplaire devant le monde sur la transition énergétique. Bon, qui porte aussi sur les transports. Donc, il nous faut remettre son ambition, il faudrait que nous en parlions avec puissance et que nous retrouvions cette puissance. Après, sur l'attractivité, je dirais qu'il faut être concret aussi. Être concret veut dire qu'on a cette question de la formation. Moi, je regrette, et là, on va le corriger, mais que c'est bien de parler des emplois futurs, des emplois dans les décennies futures, mais il y a quand même, mes chers collègues, que nous sommes incapables aujourd'hui de pourvoir aux emplois qui existent. Et que moi, je ne dis pas salaud de luxembourgeois qui nous pique les emplois qualifiés lorsque on a encore 10% de chômeurs dans l'agglomération, 20% à Voipy et 40% à Saint-Éloi. Et je me dis que tant qu'on a un tel réservoir de main-d'œuvre disponible, eh bien, il faut justement, on doit pourvoir à nos emplois sans critiquer le fait que beaucoup de nos concitoyens bossent au Luxembourg tout en continuant à habiter à dépenser chez nous. Alors, bon, donc c'est sur la formation et c'est certes la région, c'est certes les OPCA et les sociopro, mais c'est aussi à travers la mission locale pour l'insertion des jeunes, c'est aussi une compétence métropolitaine et on devrait y travailler très concrètement. Je trouve que ça manque un peu. Ensuite, si on parle d'attractivité d'un rapport, c'est avec l'habitat et le logement. J'étais très heureux d'être avec vous, vice-président en charge de l'habitat et du logement. J'ai par ailleurs dirigé une ville qui est passée de 10 800 habitants à plus de 14 000 au cours de la période récente et qui en plus physiquement est plutôt 15 000. Ça fait comment ? On n'était pas une ville d'une attractivité extraordinaire. On n'avait pas l'attractivité de Sainte-Thérèse ou de Marly. Et bien simplement, d'abord en assurant des fonctions de base comme la sécurité et ensuite en se battant pour permettre à la fois l'accession sociale à la propriété et en permettant d'accéder à la propriété, voire même à la location, quand c'est dans le secteur privé, à des prix raisonnables. Et tout cet enjeu de la maîtrise du coût de la construction, de la maîtrise des prix, est absolument fondamental. J'étais pas très longtemps avec une amie à Bordeaux, en train de discuter avec Alain Juppé, qui était encore maire sur plein de sujets, et on a évoqué notamment celui-là, dans sa ville qui est beaucoup plus impactée par la hausse des prix que nous le sommes, mais comment on a des outils qu'il faut actionner, mobiliser, politique de l'habitat et du logement, et là il y a encore beaucoup de choses à faire très concrètement sur ce sujet, parce que l'attractivité, la dynamique démographique, nous la retrouverons qu'en mettant en œuvre ces politiques. Alors c'est en étant très, très concret, excusez-moi, c'est aussi déterminé sur la proximité. On le dit qu'il faut le faire. L'exercice reste à faire et la preuve reste à démontrer que nous sommes capables à la fois d'avoir la puissance au niveau métropolitain en gardant la proximité pour savoir satisfaire les besoins élémentaires de chacun de nos concitoyens. On n'en a pas encore apporté la démonstration. Il faudra le faire sur l'ensemble des services. Et là-dessus, j'en rajouterai un dont on ne parle pas du tout, qui n'est pas une compétence métropolitaine, mais qui est le sujet de la sécurité. En aucun cas, je ne proposerai que cette compétence devienne en tant que telle métropolitaine. J'estime que le maire est seul à pouvoir, parce qu'il connaît parfaitement la population, assurer le complément à l'État dans la mission de sécurité. Mais il y a une gestion, la sécurité, c'est en grande partie une appréhension des flux. Et les flux, ils sont métropolitains. Et donc, on doit avoir une réflexion métropolitaine. Aussi, la sécurité, la réponse adéquate dans chaque commune peut être apportée par une mutualisation de moyens. Alors, c'est une mutualisation de moyens, ça peut passer par un centre de supervision urbaine métropolitain. Et j'arrêterai là, parce qu'il y aurait beaucoup à développer.
Merci.
Mais il y a énormément de sujets sur lesquels, très concrètement et dans la proximité, la métropole peut renforcer la qualité de vie et donc son attractivité pour servir son objectif de puissance, qui est de renouer avec une dynamique démographique et d'imposer Metz métropole dans le concert des métropoles.
Merci. Madame Kosik, ensuite M. Le Cadir et M. Gros, pour terminer.